Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'attentat qui a frappé le cœur de Vienne hier soir a été mené par au moins un sympathisant du groupe État islamique. 3 personnes ont été tuées, 6 lieux visés à l'arme automatique, près d'une synagogue et de l'opéra, alors que de nombreux Autrichiens profitaient de leurs dernières heures de liberté avant l'entrée en vigueur d'un reconfinement. Nous irons sur place dans un instant.
Et cet attentat intervient dans un climat déjà tendu en Europe après l'attentat au couteau à Nice et la décapitation du professeur Samuel Paty, Al-Qaïda. Au Maghreb islamique menace désormais de se venger d'Emmanuel Macron qui défend la liberté d'expression et le droit à la caricature.
Les États-Unis se tiennent aux côtés de l'Autriche, de la France et de l'Europe tout entière dans le combat contre le terroriste, déclare Donald Trump, alors que des dizaines de millions d'Américains se rendent aux urnes aujourd'hui pour choisir entre le président républicain et son rival démocrate Joe Biden. Dans ce journal, nous serons aux côtés des supporters des deux camps pour comprendre à quel point cette élection présidentielle divise les États-Unis.
Et puis à la une encore, Catherine, 418 morts du Covid en France. Un record depuis le mois d'avril.
Et en ces temps de reconfinement, alors que le gouvernement doit publier aujourd'hui un décret définissant les produits de première nécessité autorisés à la vente, la fronde des petits commerces s'organise, ce qui s'estime lésé par les contraintes sanitaires face aux grandes surfaces.
Et puis, justement, on l'évoquera, les petits commerces malades du Covid. Ça sera le thème de la question du jour dans une dizaine de minutes. Je poserai la question à Vincent Chabot. Il est sociologue, enseignant, chercheur à l'Université de Paris.
Certains buvaient un dernier verre avant d'entamer aujourd'hui un mois de reconfinement. D'autres, amateurs de musique, profitaient d'un dernier air d'opéra quand des tireurs armés ont brusquement surgi dans la quiétude de Vienne, la capitale autrichienne, où la criminalité est habituellement très faible, comme en témoigne Amélie, guide conférencière. Cette Française vit en Autriche depuis 9 ans.
Il y avait plus de gens à l'extérieur que les jours précédents à cause de ce reconfinement qui arrive là. C'est très dur parce que on dit que Vienne est un village et c'est vrai qu'on a tous, je pense, tous les habitants de Vienne, des amis, des collègues, des proches qui se trouvaient en centre-ville, qui ont entendu l'horreur.
Et 3 personnes ont été tuées hier soir à l'arme automatique à Vienne dans 6 lieux différents. Une attaque perpétrée par au moins un terroriste islamiste sympathisant de Daesh. C'est ce qu'indique ce matin le ministre autrichien de l'Intérieur à Vienne. Le récit de cet attentat par notre correspondante Isorias.
Vers 20h, des coups de feu éclatent dans l'Innerstadt, le centre historique de Vienne. La police identifie 6 lieux de tir différents, tous assez proches les uns des autres. Daniel Kapp se trouvait à proximité de l'un des lieux attaqués. Il témoigne à la télévision publique autrichienne.
Avec les fenêtres ouvertes, on pouvait entendre des tirs en direction de la Rotenturmstrasse. Et depuis la fenêtre, on voyait des gens qui fuyaient. Environ 10-15 minutes plus tard, les forces d'intervention sont arrivées en nombre.
Les autorités pensent qu'il pourrait y avoir plusieurs assaillants. Un a été abattu par les forces de l'ordre. Il s'agirait d'un sympathisant de l'État islamique. Sébastien Kurz a donné quelques précisions hier soir.
Ils sont très bien équipés avec des armes automatiques. Ils sont donc préparés de manière très professionnelle. C'est définitivement une attaque terroriste.
Une attaque qui intervient dans un contexte particulier, en pleine pandémie de coronavirus. De nouvelles mesures, dont un couvre-feu nocturne, sont entrées en vigueur cette nuit. Les écoles sont ouvertes ce mardi, mais le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il ne serait évidemment pas obligatoire pour les élèves viennois de s'y rendre aujourd'hui.
Isorias à Vienne pour France Culture. Après la France, c'est un pays ami qui est attaqué. C'est notre Europe. Nos ennemis doivent savoir à qui ils ont affaire. Nous ne céderons rien, a déclaré Emmanuel Macron en français puis en allemand sur Twitter. Le président français, désormais nommément visé par Al-Qaïda au Maghreb islamique, alors que des manifestations contre la France se sont poursuivies hier au Bangladesh et en Indonésie. Les précisions de Bertrand Galichet.
Le communiqué du groupe djihadiste réagit aux déclarations d'Emmanuel Macron, affirmant que la France ne renoncerait pas aux caricatures au nom de la liberté d'expression. Al-Qaïda au Maghreb islamique appelle ses partisans à tuer ceux qui insulteraient le prophète. Acmi menace également le président français en affirmant qu'il n'oubliera pas ses agissements. Le groupe terroriste appelle à la vengeance et va jusqu'à présenter comme un martyr le Tchétchène radicalisé qui a décapité Samuel Paty. Al-Qaïda au Maghreb islamique est estime enfin que le boycott des produits français est un devoir, mais qu'il ne suffit pas. Ce communiqué intervient au moment où la France, par la voix de la ministre des Armées, annonce avoir tué lors d'une opération de grande ampleur dans le centre du Mali plus de 50 djihadistes liés à Al-Qaïda. 4 terroristes ont été faits prisonniers, des explosifs et du matériel ont été découverts.
Dans un contexte décidément tendu sur le plan sécuritaire et en pleine crise diplomatique entre Paris et Ankara, le gouvernement a annoncé hier la dissolution prochaine en France du groupe ultranationaliste turc, les Loups Gris, pointé du doigt après de récents incidents avec la diaspora arménienne près de Lyon, en marge du conflit dans le Haut-Karabakh.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le contexte sécuritaire et sanitaire a mis une chape de plomb sur la rentrée scolaire.
Un peu plus de 12 millions d'élèves et plus d'un million de professeurs et d'encadrants ont observé une minute de silence hier en hommage à Samuel Paty, décapité le 16 octobre, juste avant les vacances de la Toussaint, après avoir montré dans son cours d'histoire-géographie des caricatures de Mahomet. Malgré certains témoignages d'enseignants, aucun incident n'a été officiellement relevé hier. Le ministère de l'Éducation nationale ne communiquera là-dessus que dans les prochains jours. Une rentrée sous pression sanitaire également. Le nombre de patients en réanimation a fortement augmenté pour atteindre 3721 personnes dans un état grave aujourd'hui. 418 morts par ailleurs en 24 heures, c'est un record depuis le mois d'avril. Et le gouvernement publiera aujourd'hui un décret définissant les produits de première nécessité autorisés à la vente pendant ce reconfinement. En attendant ce décret, Bercy précise que l'on pourra continuer à acheter en grande surface les produits dits non essentiels. Il y a une tolérance jusqu'à demain et c'est inacceptable pour les petits commerces qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour garder leurs portes ouvertes. Le reportage d'Annabelle Grelier dans le nord-est de Paris.
Café, librairie, Kissito et Thomas, les patrons du Cassiopée, ont tout faux. En théorie, ils devraient fermer leur commerce.
On n'a pas encore regardé, je vous avoue, les nouvelles mesures qu'on doit suivre. Donc pour l'instant, on a ouvert la porte et on fait à emporter.
Alors en vendant des pâtisseries et des paquets de café, les voilà peut-être devenus commerce essentiel.
Il y a une nuance, on ne sait pas exactement ce qu'on est. En tout cas, on est un havre de paix pour nos clients qui désespèrent de cette deuxième confinement. Donc on ouvre, on fait des cafés à emporter sous prétexte qu'on torréfie un petit peu et qu'on achète des paquets chez nous, et on vend un petit peu de pâtisserie et surtout beaucoup de bonheur et beaucoup de blagues.
Musique sur le pas de porte, on essaie de rester de bonne humeur, vision presque lunaire pour les passants qui regardent sans s'arrêter. Seuls les habitués osent prendre un café, un livre et saluent l'initiative. Pour Sonia Bouzaleta, présidente de l'association des commerçants de la Goutte d'Or, les petits commerçants, malgré tous leurs efforts, ne pourront pas lutter longtemps.
Ben non, c'est pas vraiment une rébellion. Si c'était une rébellion, on serait tous ouverts du matin au soir. Et c'est pas en vendant des cafés importés pour certains, des livres en click and collect pour d'autres, qui pourront payer leur loyer. Parce qu'à la fin de toute cette histoire, il y en a pour beaucoup qui vont perdre leur commerce, perdre le travail d'une vie. Et ça, c'est très dur de l'accepter et de l'admettre. Alors là, c'est une façon de dire on est là, on existe, on n'est pas encore mort.
La peur de la faillite est dans tous les esprits. Cette période de fête est un enjeu énorme pour les commerces. Nombre d'entre eux espèrent que ces fermetures, comme l'a laissé espérer le gouvernement, ne dureront pas plus de 15 jours.
La pandémie qui donne par ailleurs des armes à Joe Biden en ce jour de présidentielle aux États-Unis pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire par Donald Trump. Plus de 230 000 morts aux États-Unis du Covid-19, 9 millions de personnes qui ont été contaminées. Aujourd'hui, près de 230 millions d'Américains sont appelés aux urnes. Plusieurs millions d'entre eux se sont déjà exprimés grâce au vote anticipé par correspondance ou en se déplaçant dans les bureaux déjà ouverts. Et dans la toute dernière ligne droite, Joe Biden a multiplié les rendez-vous hier en Pennsylvanie, un état où il est né, un état clé qui avait basculé dans le camp républicain en 2016. Une quinzaine de rendez-vous pour Joe Biden, des étapes suivies depuis Philadelphie par Sébastien Paour.
Un appel aux urnes et un adieu à Trump, voilà le message de Joe Biden à Pittsburgh. Le pouvoir de changer ce pays est entre vos mains. Avec la chanteuse Lady Gaga pour mobiliser les plus jeunes électeurs. Autre lieu, autre scène, autre chanteur, Kamala Harris avec John Legend à Philadelphie et son mari, Doug Emhoff, en banlieue, devant une cinquantaine de personnes.
Je suis ici comme Joe, Jill, Kamala, nous avons choisi la Pennsylvanie pour une raison. Nous devons gagner ici. Et ma femme, l'amour de ma vie, Kamala Harris, sera votre prochaine vice-présidente.
On veut y croire aussi chez les militants, dont Nancy, 64 ans, venue spécialement du Connecticut pour démarcher les électeurs, comme elle le faisait déjà quand elle était au lycée, pour la première campagne du sénateur du Delaware.
En 1972, j'ai travaillé pour l'élection de Joe Biden. Il avait gagné et j'espère qu'il gagnera encore cette année.
On serait débarrassé de Trump, dit encore Nancy, et ma boucle, à moi, serait bouclée.
Mais rien n'est encore perdu pour Donald Trump. Illustration en Floride à présent, où dans la zone nord-ouest de l'État, une zone déshéritée, très républicaine, Donald Trump avait pu l'emporter en 2016. Il peut s'assurer toujours d'une base très fidèle, notamment auprès des pêcheurs de gambas. Le reportage de Gaël Joly.
Non, le choix ne sera pas difficile pour Jim, occupé à réparer ses filets à la bande sa chaloupe. Ce sera encore et toujours Donald Trump.
Quand Obama et Biden étaient au pouvoir, on payait 1,25$ par litre d'essence. Maintenant, on paye moins de 50 cents. Moi, j'ai pas envie de payer 1,25$. Et le cours de la crevette remonte lentement, alors que quand Obama était là, tout s'écroulait. Ça se passe bien pour moi. J'ai pu investir dans l'immobilier.
Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, poursuit John, capitaine de bateau lui aussi, mais il reste fidèle au milliardaire.
Il y a trop de bêtises qui sortent de sa bouche. Il a parfois une interprétation un peu libre des informations, il dit des conneries. Mais Donald Trump, c'est un businessman et ce pays est en faillite. Depuis qu'il est au pouvoir, ce sont les meilleures années de ma vie. Il fait du bon boulot à la Maison-Blanche et moi, je fais plus d'argent.
Mais le scrutin l'inquiète. John a peur que la situation dégénère, mais il s'accroche à l'idée que tout ça se passera bien loin de son petit village de pêcheurs.
Mais oui, c'est ça. C'était dans Forrest Gump où il était question de la pêche à la crevette, c'est Catherine Dutu.
Et là, c'était des gambas, donc le reportage.
Ah, ça n'est pas la même chose.
Vous n'allez pas égrener des recettes. Lui égrènera les heures, les dernières heures avant l'Election Day aux États-Unis. Camille Magnard reviendra donc sur les toutes dernières heures avant le vote aux États-Unis. Le vote sur la présidentielle, ce sera dans la revue de presse internationale après le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 3 novembre, encore marqué par une perturbation pluvieuse ce matin du sud-ouest jusqu'au nord-est. Un ciel variable partout ailleurs. Au meilleur de la journée, il fera entre 11 et 16 degrés du nord au sud jusqu'à 20 près de la Méditerranée.